territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
En droit, il y a quelque chose qui est souvent invoqué, c'est la question de l'état de nécessité. Au vu de l'urgence climatique, il y a 6 des seuils critiques irréversibles de mise en cause de l'habitabilité de la planète, et notamment celle du cycle de l'eau douce, qui ont été franchis dans les 10 dernières années.
Benoît Feuillu, co-porte-parole des soulèvements de la Terre.
Et là, on a un parquet qui a expliqué qu'il n'y avait pas d'urgence à agir, qu'il n'y avait pas d'état de nécessité climatique, donc qu'on devait être condamné. Si on s'est retrouvé à agir hier à Sainte-Soline et si on se retrouve à agir demain devant n'importe quel prochain chantier de méga-bassine, c'est parce qu'on considère tous qu'il y a état de nécessité et qu'il y a urgence. Est-ce qu'il y a aussi une justice pour les dirigeants de ce pays qui martyrisent leur population et qui les empêchent de se rebattre pour leurs droits vitaux? Et c'est ça qu'on va mettre en cause au tribunal aujourd'hui.
27 mai 2026, vous voici à nouveau devant le tribunal de Poitiers, dans ce parc où 500 personnes sont venues soutenir les 4 co-porte-parole de leurs collectifs et syndicats, accusés d'avoir organisé la manifestation de Sainte-Soline du 25 mars 2023. Sainte-Soline, où 3000 gendarmes ont lancé plus de 5000 grenades sur 30 000 manifestantes et manifestants, faisant 200 blessés graves, dont 2 comas. Tout ça pour défendre un grand trou vide où il n'y avait rien à dégrader. Après la répression policière, répression judiciaire, avec dès le départ des magistrates et magistrats qui font semblant de ne pas comprendre la différence qu'il y a entre porte-parole et organisateur. Il s'agit de faire payer des boucs émissaires qui ont osé parler pour leur collectif, faire des exemples pour dissuader toute contestation. Ce 27 mai est donc une énième étape de l'interminable calvaire judiciaire de Julien Leguet, co-porte-parole de Bassine Non Merci, dont on vous a raconté les audiences de décembre 2025, mars 2026 au tribunal de Poitiers et le procès de mai 2026 au tribunal de Paris. Également convoqué à ce procès du 27 mai à Poitiers, Benoît Feuillu, co-porte-parole des soulèvements de la Terre, et Nicolas Giraud et Benoît Jaunet, co-porte-parole de la Confédération Paysanne. Au-delà de ce procès pour organisation de manifestations illégales qu'ils n'ont pas organisées, ces 4 porte-paroles vont aussi évoquer la LUA, loi d'urgence agricole votée par les députés de droite, texte méphitique qui signe la mort de nos campagnes avec plus de fermes-usines, plus de méga-bassines, plus de pesticides cancérigènes, plus de suicides de petits agriculteurs esclavagisés et broyés par l'agro-industrie. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est lavoixoff.com et pour votre radio encore libre préférée, No Basaran et No Pasaran non plus. Un village anti-bassine est donc à nouveau sorti de la terre du parc qui fait face au tribunal de Poitiers où, lors d'une précédente étape de son marathon judiciaire, Julien Leguet s'est vu infliger 20 000 euros d'amende et 6 mois de port de bracelet électronique.
Mesdames, messieurs, qui veut son petit bracelet électronique pour mettre à la cheville, à garder pendant 6 mois, c'est aussi votre laissez-passer pour rentrer au tribunal.
Bonjour Christian.
Salut.
En cette période de canicule, tu es presque le corps nu.
Je m'habille d'un bracelet électronique en tissu bleu que je vais devoir porter comme beaucoup d'entre nous pendant 6 mois pour la défense de l'eau.
On en connaît un qui en a un vrai, le bracelet électronique.
Ouais. Il veut pas nous le prêter.
Alors Julien s'interrogeait l'autre jour pour savoir s'il aurait un bracelet électronique du même modèle que celui de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un bracelet électronique qui permet de prendre des vacances aux Seychelles.
Il y a la demande qui est faite. Hein.
Oui.
Après, c'est avec le juge d'application des peines qui va en décider. Quoi. Les voyages, je sais pas s'ils seront autorisés. Même chez lui, il sera dans les luttes. Par les téléphones, on peut travailler.
Est-ce qu'il aura le droit de lire la Bible et le conte de Monte-Cristo? Et d'écrire un livre?
Il est plutôt en train d'écrire une bande dessinée. Hein.
Alors je crois que quelqu'un aimerait son bracelet électronique. Donc on rappelle, c'est une bande de tissu bleu. Ah, toi, tu l'as pas mis à la cheville?
Non, parce que ça se voit mieux, là.
Voilà. Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
Il veut son bracelet électronique.
Même dans les moments les plus dramatiques, ces mouvements Bassine Non Merci et Soulèvement de la Terre font montre de leur stupéfiante force vitale de joie, de fête, et tout s'y passe toujours en musique et en chanson.
Nous étions 100, nous étions 1000, nous étions 1100. Nous étions 100, nous étions 1000, nous étions 1100.
La prise de parole va commencer déjà par une lecture d'un texte qui a été écrit à plusieurs mains.
plusieurs bassines, non merci.
Nous étions 100, nous étions 1000, nous étions 1000 et 100. Dans sa chanson « Hommage à la manifestation de Sainte-Soline du 25 mars 2023 », Christian Paché, artiste du Poitou, fait revivre notre foule qui convergeait vers la méga-bassine, ce gros cratère vide gardé par des robots. Il chante « Nous sommes venus nombreux du fond de nos villages, des villages que nos vieux ne reconnaissent plus. Ils ont été vidés et vendus nos campagnes à la spéculation qu'on ne rassasie plus. Oui, nous étions nombreux et nombreuses à converger de toute la France et d'Europe. Nous étions 30 000. Et nous n'étions pas seulement des milliers de corps, nous étions des milliers de voix. Nous étions venus pour dire notre détermination à lutter contre l'accaparement de l'eau, pour chanter notre joie de le faire ensemble, pour crier notre colère face au projet destructeur que l'État impose par la force. Nous étions venus pour porter une parole, celle du peuple de l'eau. Pour la rendre inaudible, l'État a employé les pires méthodes. Il l'a recouvert de bruits de tirs et d'explosions de grenades. Il a tenté de nous faire taire à jamais. Pourtant, le soir même, nous témoignions, nous reprenions du souffle et de la voix. Et depuis, nous n'avons jamais cessé. Nous poursuivons la lutte, notamment en prenant la parole partout. Dans des réunions publiques pour informer les habitants et habitantes des chantiers qui se préparent. Dans les médias pour alerter et défaire le discours du gouvernement. Dans les manifestations pour continuer à dire notre désaccord et pour encourager d'autres à nous rejoindre. Dans les ouvrages qui font trace de nos expériences collectives. Jamais nous n'avons laissé s'installer le silence et jamais il ne s'installera. Il n'y a pas quatre porte-paroles, comme voudrait le faire croire l'État, en réprimant et en assignant en justice nos camarades. Au sein de notre lutte, comme au sein de toutes les luttes sociales et écologiques, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de porte-paroles. Dans les rues comme aujourd'hui, ici, dans tous les collectifs, associations, syndicats, mouvements et partis, groupes d'autodéfense et d'éducation populaire, qui s'organisent au quotidien contre la destruction du vivant et la montée du fascisme, elles et eux sont nos porte-paroles.
Ce procès en appel est une nouvelle occasion de dire collectivement que défendre l'eau face à la catastrophe écologique est une nécessité vitale. Manifester, s'organiser, désobéir sont des droits fondamentaux. La lutte contre les bassines sont légitimes, ancrées et toujours aussi déterminées. Les alternatives existent, elles se pratiquent et font leurs preuves. Ce procès en appel est une nouvelle occasion de redire collectivement que nous nous tenons toujours aux côtés des blessés graves qui attendent des nouvelles de leurs plaintes depuis près de 3 ans et qui ont dû subir un véritable fiasco judiciaire. Autant d'auditions complaisantes des gendarmes de l'IGGN à la privatisation pure et simple de justice par un procureur zélé. Mais hasard du calendrier, Mediapart et Libération viennent de révéler l'identité du tireur qui a grièvement blessé Serge en effectuant un tir tendu depuis son véhicule blindé. Pourtant, c'est toute la hiérarchie qui doit être identifiée et jugé pour avoir sciemment organisé l'opération de répression qui ont marqué la manifestation du 25 mars 2023 contre la bassine de Sainte-Soline. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Darmanin, a été à la manœuvre. Il est aujourd'hui ministre de la Justice. Pur scandale, pure provocation. Nous appelons à sa destitution et à sa comparution immédiate. L'État fait la sourde oreille, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'il nous attend à défaut de nous écouter. Ils pensent qu'à force de crier, nous perdrons notre voix, mais ils se trompent. Nous sommes suffisamment nombreuses et nombreux pour nous relayer. Partout, notre voix porte, nos rangs s'étoffent. Ainsi, depuis 5 ans, de nouveaux collectifs locaux, Bassines non merci, voient le jour. Après la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Boutonne, des habitants et des habitantes du Finistère, du Berry, du Puy-de-Dôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Indre-et-Loire ont rejoint le mouvement. La région parisienne s'est soulevée et a gagné. Le Maine-et-Loire, la Sarthe entrent en lutte. Devant vous, aujourd'hui, nous sommes de l'Interbassine, un collectif qui réunit des membres des groupes locaux pour échanger, mutualiser nos moyens, renforcer la lutte contre les bassines.
Sommes-nous des porte-paroles ? Oui, comme des dizaines, des centaines, des milliers d'autres. Notre camarade Julien Leguet est l'un des nôtres. Depuis des années, il fait l'objet de surveillance, de pression, de répression, d'acharnement judiciaire. Nous dénonçons les condamnations qui pèsent sur lui, notamment la dernière en date, particulièrement lourde et injuste. 6 mois de prison aménagée sous forme d'assignation à résidence avec un bracelet électronique. Nous lui exprimons tout notre soutien, notre force et notre amitié, camarades. Force aussi aux camarades de la Confédération paysanne et des soulèvements de la terre qui comparaissent aujourd'hui et de manière générale à tous ceux et celles qui ont à subir la répression d'État, souvent dans un silence assourdissant. À travers ce procès de l'organisation de la manifestation de Sainte-Soline, ce sont quelques personnes qui sont visées pour leur qualité de porte-parole des organisations ayant lancé l'appel à mobilisation. Alors qu'il s'agit bien de toute une dynamique collective, un mouvement puissant qui s'est levé contre un monde où quelques-uns s'approprient des ressources vitales, comme l'eau, au détriment du vivant et au profit de l'agro-industrie toute puissante. Nous allons continuer, depuis Bassine Non Merci, à porter la parole de l'eau, la parole du vivant. Nous allons continuer d'informer, d'organiser des débats publics pour dénoncer, expliquer, nous organiser face aux offensives de l'État Macron, des Le Cornu, des Duplon, des Genevard, ses complices zélés de l'agro-industrie. La criminalisation du mouvement de défense du vivant ne passera pas. Nous refusons d'être réduits et réduites au silence. En désignant nos camarades individuellement, l'État croit désorganiser notre mouvement et le voir disparaître. Qu'il entende bien ceci, à défaut d'entendre le reste. Cela n'arrivera pas. La lutte continue. Où que des travaux de bassine débutent, ici ou ailleurs, nous nous soulèverons toujours. Car le peuple de l'eau est une hydre fascinante, immortelle, dont les membres se coordonnent, pensent et agissent ensemble et qui se renouvellent à l'infini. Nos bassaranes.
Merci. Elles sont et ils sont venus en force aujourd'hui et les tracteurs le prouvent. J'invite la Confédération Paysanne à prendre la parole.
Ça fait 24 ans que la Confédération Paysanne se mobilise. La première manifestation a eu lieu en 2002 en Charente avec la présence de la moustache de José Bové, déjà présent pour dénoncer cette situation clairement catastrophique. 14 ans qu'on essaye de nous faire croire que c'est une lutte uniquement écologiste. Alors que nous, cette lutte, elle est avant tout pour nous sociale, elle est avant tout pour nous paysannes. Il s'agit bien là, en premier lieu, d'une question d'accaparement de l'eau. Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une partage de cette ressource qui va être de plus en plus limitée dans le temps. On souhaite que cette ressource elle soit accessible à un maximum de paysans et de paysannes et le système méga-bassine, clairement, il ne permet pas ça puisque l'eau ne provient pas de la pluie, l'eau provient des nappes phréatiques et donc de notre pot commun. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que l'on priorise des irrigants qui vont arroser des cultures pour l'exportation, qui vont arroser des cultures pour les méthaniseurs, alors même que des maraîchers, des maraîchères n'ont pas accès à cette ressource? Non. Notre boussole, ça doit rester la souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, le système méga-bassine favorise une industrialisation de l'agriculture. Via la concentration des moyens de production, ça va clairement aussi aller vers l'agrandissement et donc vers la disparition même de notre métier. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on se batte en tant que syndicat agricole. Les systèmes de méga-bassines, on aimerait aussi nous faire croire qu'ils permettent de préserver la rémunération des paysans et des paysannes. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est totalement faux, puisqu'on le sait bien, ces systèmes sont extrêmement coûteux pour les fermes qui mettent ce système en place, mais aussi pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes, puisque ces méga-bassines sont ultra subventionnées. La vérité, ce n'est pas le monde écologiste contre le monde paysan. On doit faire apparaître aussi au monde paysan que ce n'est pas dans notre intérêt de classe paysanne qu'on définit par l'immense majorité du monde paysan qui sont les grands perdants du système économique. J'en ai pour preuve les discussions aussi qu'on a pu avoir cet hiver lors des blocages pour empêcher l'abattage total des animaux en Ariège par rapport à la DNC, avec des manques de la coordination rurale. On s'oppose à cette vision nationaliste, à cette vision identitaire. Ce système méga-bassine bénéficie avant tout au col blanc de l'agro-industrie, aux agri-managers, aux mains douces qui ne touchent jamais leurs tracteurs. Ils étaient clairement d'accord avec nous. Et c'est ça qu'on doit faire comprendre à l'ensemble du monde agricole. On ne changera pas le système agricole sans celles et ceux qui travaillent la terre. Cette lutte, elle doit émanciper et permettre de nous unir contre nos vrais adversaires qui continuent à se gaver toujours plus grâce à ce système économique.
Moi, je veux parler surtout de la répression policière, de la répression judiciaire.
Fanny Métra, de la Confédération Paysanne.
La répression policière, on la vit de façon de plus en plus terrible, accablante. Les jeunes des banlieues avaient l'habitude du délit de faciès et des répressions. On l'a connu avec Adama, avec Naël et tant d'autres. Depuis les Gilets jaunes, on se rend compte que le mouvement populaire est en train de se prendre une grosse claque à chaque fois par les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, et tous le diront, en fait, on a été traumatisés dans les corps, traumatisés dans les esprits. On ne peut pas l'effacer comme ça. La violence d'État qui a eu lieu ce jour-là, elle est démente, presque impossible même à penser. On avait face aux manifestants des chiens de garde, en roue libre totale. Et Mediapart l'a bien révélé, on l'a vu, cette impunité des forces de l'ordre là, elle n'est pas possible dans un état de droit. Et il va falloir vraiment qu'on mette le paquet pour dire, c'est pas le monde dont on veut, ça n'est pas possible. La France ne peut pas continuer à se gargariser d'être un état soi-disant démocratique, un état de droit, le fameux état où est née la déclaration des droits de l'homme. On a été montré du doigt par l'ONU, par des organisations internationalistes qui disaient « c'est pas possible, il se passe quoi en France ? Depuis les Gilets jaunes, il se passe quoi ? C'est quoi ce délire que vous êtes en train de faire subir au peuple français ?» Et ces traumatismes-là, on pense fort, on l'a dit tout à l'heure, aux quatre plus grands blessés, à Serge, à Michael, à Alix et Olivier. Il y a eu non-assistance à personne en danger et c'est l'État qui est responsable de cette non-assistance. L'État assassine, ouais. En fait, on était des milliers et aujourd'hui, on accompagne les camarades inculpés parce que c'est pas possible, en fait, qu'on continue de choisir une poignée de militants, de manifestants, porter la lourde responsabilité, en fait, d'une lutte collective. Et cette lutte collective, on le redira jamais assez, c'est une lutte collective pour l'intérêt général, pour l'intérêt commun. On se bat pas pour des intérêts privés, on se bat pour toutes et tous. On condamne, en fait, les défenseurs de l'eau alors que les forces de l'ordre qui ont commis des fautes graves, qui ont commis des tirs tendus, mortels, n'ont pas à être inquiétés. Ça fait 3 ans que la justice ne fait rien. Hier, Mediapart prouve quel est le gendarme qui a fait ce tir tendu, qui a blessé Serge Nunez. Ose parler d'usage proportionné de la force, à nouveau. C'est au-delà du possible, c'est au-delà de l'imaginable. La justice a failli. Ça fait 3 ans que la justice ne fait rien. Comment on peut continuer à avoir confiance, en fait, dans un système qui a complètement déraillé ? Et puis on l'a vécu après cette violence policière, cette violence judiciaire, il y a eu les appels à la dissolution, il y a eu la haine, il y a eu les menaces. Et toutes les organisations, qu'elles soient Soulèvement de la Terre, Bassine Non Merci, Confédération Paysanne et plein d'autres, on s'en est pris plein les dents, alors qu'on défendait un droit inaliénable, un droit de la population à l'eau. Ce gouvernement, il est complice et on le voit mois après mois, année après année. On l'a vécu cet hiver avec la Confédération Paysanne où... La veille, la FNSEA arrive avec les gros tracteurs devant l'Assemblée nationale. C'est tapis rouge pour la FNSEA, pour Arnaud Rousseau. Le lendemain, alors qu'on manifestait pour demander une justice dans les aides publiques données aux paysanneries des Outre-mer, on s'est retrouvé à 52 responsables syndicalistes en garde à vue. Il y a un deux poids deux mesures qui est insupportable, infaisable. Cette répression-là, elle ne s'arrête pas, elle continue, elle se durcit. On est face à un système agro-industriel qui est ultra protégé par l'État, par la justice, par les forces de l'ordre. Il va falloir qu'on soit hyper costaud, il va pas falloir qu'on lâche l'affaire, malgré tout ce qu'on se prend dans les dents. La montée de l'extrême droite, c'est là maintenant que ça se joue, c'est là maintenant qu'il faut résister. L'année prochaine, on ne sait pas trop ce qui va devenir de nos luttes de convergence, de nos luttes syndicales. Nous, syndicats paysans, on sera qui demain si l'extrême droite est au pouvoir ? Est-ce qu'on pourra continuer à être syndiqués dans une France dirigée par le RN ? Il y a un devoir de résistance. Ce devoir de résistance, on n'a pas le choix en fait de le continuer. On n'a pas le choix pour l'eau, certes, pour la terre, pour la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples de décider de son agriculture et de son alimentation. Et normalement, tous les citoyens, toutes les citoyennes, ont le droit de décider qu'est-ce qu'on va manger demain et comment on va le produire. Mais aussi une lutte pour les droits humains, le partage des richesses, un accès aux droits pour toutes et tous. Et ce qu'on va demander surtout aujourd'hui, c'est la relax pour les inculpés, relax pour les prévenus d'aujourd'hui. Merci.
Alors que nos collègues sont dans le tribunal, on est quand même en train d'étudier à l'Assemblée nationale un projet de loi d'urgence agricole. Nous, à la Confédération paysanne, on s'oppose depuis le départ à cette loi d'urgence agricole. La seule urgence qu'elle révèle, c'est l'urgence d'Annie Genevard du gouvernement à répondre aux injonctions de la FNSEA. Ils ont encore récupéré les colères agricoles qui se sont exprimées légitimement cet hiver pour avancer sur leur agenda productiviste. Oui, il y a urgence à agir pour le revenu des paysans, pour le renouvellement des générations, pour la transition agroécologique que tous les paysans et paysannes appellent de leur vœu, hein, puisque je rappelle, il y a une étude qui a dit que 90% des paysans et des paysannes étaient prêts à engager une transition agroécologique pour peu qu'on les accompagne. Mais dans cette loi-là, il n'y a rien pour faire face à cette transition et au revenu des paysans et des paysannes, encore je vous le dis. et puisqu'il y a des parlementaires avec nous, les féliciter pour le combat qu'ils mènent à l'Assemblée nationale. Je ne félicite pas, par contre, une grande partie des parlementaires qui ne voient à travers cette loi d'urgence que la nécessité de nous faire stocker de l'eau, d'irriguer, pour satisfaire encore une fois l'injonction de la FNSEA, de l'agro-industrie, d'une minorité d'oligarques agricoles, en fait, qui accaparent l'eau, qui accaparent les subventions, qui accaparent les sols et qui va tous nous faire crever. Les élus qui ont ces paroles-là, là, vous les citoyens, les citoyennes, il faudra les attendre au tournant dans les élections parce que c'est inadmissible de ne pas défendre l'intérêt général, l'intérêt des paysans, des paysannes et l'intérêt des citoyens et des citoyennes.
La CGT, rapidement.
Moi, j'ai été condamné sur Sainte-Soline 1 pour organisation d'une manifestation interdite en Deux-Sèvres pour la CGT. Il y a un camarade de Solidaire qui a été condamné aussi. Tout notre soutien aux inculpés, ce qu'on demande, c'est la relaxe, parce que c'est clairement un procès politique contre la défense du bien commun. On ne peut pas se laisser faire là-dessus. Il y a des répressions syndicales qui sont énormes en ce moment, et des répressions surtout sur les questions écologiques, notamment notre secrétaire confédérale, Sophie Binet, qui est attaquée par Tefal sur la question des PFAS. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut sauver notre planète et il faut protéger notre bien commun, l'eau. Parole aux inculpés d'aujourd'hui.
À poil, t'es sale.
Eh ben, nous aussi, on va dire ça pour les soulèvements de la Terre.
Benoît Feuillu, co-porte-parole des soulèvements de la Terre.
J'ai foncé aussi au tribunal et j'irai serein. En fait, ce que vous ont dit l'inter-BNM, c'est aussi ce qu'on va aller dire à la juge. Et pourquoi on y va serein? C'est parce qu'on sait que malgré la loi d'urgence agricole, même s'ils redémarrent des projets de méga-bassines cet automne, bah nous, on a confiance en allant au tribunal que vous tous et vous toutes et des milliers et des dizaines de milliers de personnes les en empêcheront de nouveau et iront sur le terrain pour les en empêcher. Et si on n'avait pas cette conviction, on n'irait pas serein au tribunal, mais là, du coup, on y va. Et je vous dis un dernier mot. On va parler d'une manifestation passée. Et la répression de cette manifestation passée, elle visait à nous terrifier, à nous faire renoncer, à nous faire taire. Et à ce qu'on s'arrête de lutter, et ça n'a de toute évidence pas marché du tout. Dès le 10 ou 12 juillet, on va aller protéger l'eau vers Compiègne contre le méga canal, et c'est hyper important. Et le 26 septembre, on va se retrouver ensemble avec des milliers d'autres devant un des plus gros sites de production de pesticides dans le nord de la France pour dire que partout, il faut arrêter la production de pesticides et aller les chercher à la racine du mal, là où ils sont produits. On le fera de nouveau avec des paysans, avec des ouvriers du secteur et avec tous les défenseurs et défenseuses de l'eau le 26 septembre.
Et je vais faire très très vite parce que l'heure tourne et dans 10 minutes, ben, on est devant les fourches caudines de la loi. On est 500 cet après-midi et c'est vraiment super. Et puis l'autre truc, avant de passer la parole à Anne et Lisa, moi j'ai qu'une hâte, hein, c'est qu'on sorte de là-dedans et puis qu'on se retrouve tous ce soir pour faire ce qu'on fait à chaque fois, pour faire face à cette oppression. Une grosse belle fête, comme on aime les faire tous ensemble. Et un grand grand merci aux artistes qui, une nouvelle fois, se sont mobilisés. Un grand merci à la Misole, aux copains de la technique. En fait, si tout ça est possible, c'est qu'il y a aussi des gens qui militent de cette manière-là et qui mettent leur savoir-faire dans le pot commun. Merci à vous tous. Et merci Anne et merci Lisa. Et je te donne la parole parce que je crois que tu rentres avec nous au tribunal.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne Steinbach-Ternoir, députée de la France Insoumise de Haute-Garonne. Par ma voix, vous avez aujourd'hui le soutien complet de tout mon groupe parlementaire, de tout notre mouvement de la France Insoumise. Soutien aux quatre camarades qui vous passent aujourd'hui à la justice, mais plus largement, soutien à tout votre mouvement, à votre combat ici, qui est un combat d'intérêt général pour l'eau. Je crois qu'on ressent tous aujourd'hui bien, hein, dans notre chair, à quel point c'est un combat urgent et nécessaire. Aujourd'hui, justement, dans l'Assemblée avec Lisa, On s'est échappé cet après-midi, mais comme le disait Stéphane tout à l'heure, nous faisons face au projet de loi dit d'urgence agricole, qui est une horreur et qui, comme après Duplomb, comme après plein d'autres textes iniques, favorise encore et toujours les méga-bassines au bénéfice de quelques-uns, au détriment de absolument tous les autres, paysannes et paysans compris. On vit aujourd'hui un moment assez hallucinant, je trouve. D'un côté, la justice environnementale vous donne raison, puisque la bassine de Sainte-Soline est quand même toujours déclarée illégale, comme d'autres décisions qui sont prises régulièrement contre les méga-bassines. Et de l'autre côté, vous faites face à un acharnement judiciaire absolument inédit, à des sanctions inédites et absolument insupportables. Et ça, c'est le reflet de la doctrine autoritaire que met en place ce gouvernement aujourd'hui, qui veut nous faire taire, qui veut vous faire taire, parce qu'il sait que vous avez raison et que le système qu'ils défendent, eux, est complètement moribond. Alors ils ont recours à la force Et comme vous tous ici, je pense, jamais je n'oublierai ce que j'ai vu à Sainte-Soline. Les 3000 agents autour d'un pauvre cratère avec leurs blindés, les 5000 grenades en 2 heures, les plus de 200 blessés, tout ce genre défiguré, ensanglanté dans la boue. Alors je voudrais le dire ici très fort, honte, honte éternelle au ministre Darmanin, au ministre Nunez, qui encore, monsieur Nunez, qui encore hier... Oui, honte, parce qu'ils ont déployé toute la violence de l'État et hier encore en hémicycle, alors que je l'interrogeais, le ministre Nunez a osé parler encore une fois d'une répression proportionnée. C'est absolument insupportable dans un État de droit. Et je termine juste là-dessus, je voudrais rappeler quand même que ces gens, malgré les 200 blessés, n'ont déclenché aucune enquête. Il a fallu attendre qu'il y ait les révélations de la presse avec les vidéos insupportables filmées par les gendarmes pour qu'il y ait une enquête. Et maintenant que Mediapart et Libération, eux, ont réussi à faire le boulot que les enquêteurs n'ont bizarrement pas réussi à faire en identifiant l'origine du tir qui a failli tuer Serge, eh bien ça y est, là ils nous disent « Ah oui, on va voir, on va pouvoir peut-être faire justice ». Franchement, c'est insupportable, c'est une impunité organisée. Encore une fois, ils savent ce qu'ils font, c'est de la violence d'État, nous ne laisserons pas faire, nous réclamons justice pour les blessés, nous avons une commission d'enquête, cette demande de commission d'enquête qui est toujours sur la table, et nous demandons la relaxe pour tous ceux qui font face à la justice cet après-midi. Par chez moi, on dit beaucoup « non macadam », je viens de Toulouse, contre une fameuse autoroute, mais ici je voudrais crier, c'est le même combat honnêtement, hein, c'est comme le méga canal, et donc avec vous ici je veux crier très fort « non macadam !»
Je suis Lisa Belluco, je suis députée de la Vienne et donc vous êtes ici sur ma circonscription. Je suis députée écologiste et je vais m'exprimer au nom de mon groupe parlementaire et puis des écologistes. Je voulais vous dire merci. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux aujourd'hui. Merci de tenir face à la répression, face au contrôle, face à la violence. Vraiment merci de résister. Merci de continuer à dénoncer, de ne pas vous taire et de vous exposer, et malgré l'exposition physique et psychologique que cela engendre. Je vous dis merci parce que votre présence nous fait du bien, je dois vous le dire en ce moment. On examine une énième loi agricole, une loi d'urgence agricole. J'ai fait l'aller-retour, du coup, comme Anne, pour vous dire ce qui se passe à l'Assemblée, donc je vais essayer de faire vite. Mais en quelques mots, cette loi, c'est quoi? C'est la destruction de la gouvernance de l'eau, ce qu'il en reste. C'est la destruction des derniers garde-fous pour protéger l'environnement. C'est l'institutionnalisation des procédures bâillons. C'est la supercriminalisation de tout acte qui toucherait les agriculteurs. C'est le soutien à l'industrialisation de l'élevage. Et évidemment, c'est le soutien aux méga-bassines comme la seule et unique solution d'adaptation au changement climatique. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de la ministre de l'Environnement et de la ministre de l'Agriculture. Maintenant, le stockage de l'eau est un objectif de gestion de l'eau dans notre code de l'environnement. Alors à l'Assemblée nationale, on a définitivement basculé dans une ère trumpiste. Les mots n'ont plus aucun sens. Mais nous, nous nous battons avec nos mots. Enfin, on essaye. Mais vous, camarades, vous... paysannes résistantes, paysans résistants, qui êtes en train de rentrer dans le tribunal, et je vais accélérer, je suis désolée, militantes, militants, activistes, vous consacrez votre vie à la lutte. Vous êtes la digue, vous êtes un rempart face à un État qui défend les riches, qui nous criminalise, face à un État qui autorise la violence, galvanisant les forces de l'ordre prêtes à blesser, voire pire, comme l'ont révélé Mediapart et Libération. Alors pour cela, je vous dis merci. Et à vous qui comparaissez aujourd'hui et qui êtes en train de rentrer dans le tribunal, vous avez notre immense reconnaissance et notre immense respect et notre soutien sans faille et sans fin. Je serai toujours à vos côtés, même si je vous l'avoue, j'ai un peu peur. J'ai peur des menaces, j'ai peur de me faire à nouveau frapper en manif comme je l'ai été, moi aussi, malgré mon écharpe. J'ai peur de ces mots qui n'ont plus aucun sens à l'Assemblée. Mais parce que vous êtes là, parce que vous risquez vos vies, et pour nos enfants, je ne lâcherai rien, nous ne lâcherons rien, et vous nous aurez toujours à vos côtés. Alors, no basaran!
Si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement. Si plus rien n'arrête le vent, on était dans les chemins creux, sans lacets les amoureux, les rossignols, les alentours, leur sifflaient des chansons d'amour. Avec les branches de sureau, les enfants faisaient des futios. Existe-t-il un seul ruisseau qui n'ait pas fait tourner moulin à eau? C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. Les techniciens sont arrivés, les techniciens ont ordonné aux paysans manipulés, toutes les haies ont arraché. ils ont bouché les verpréries, ils ont drainé, le gouvernement a torturé. C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent.
La faute au remembrement par l'intercorale de Bassine Non-Merci, qui accompagnait au tribunal de Poitiers les quatre prévenus du procès du 27 mai 2026, qui, avant l'audience, ont donné cette conférence de presse ouverte par Benoît Jonnet et Nicolas Giraud, co-porte-parole de la Confédération paysanne, outrés par l'injustice de leur inculpation, révoltés par la mortifère loi d'urgence agricole votée par les députés de droite, texte qui annonce la mort des campagnes et de la vraie paysannerie au profit des voleurs, pollueurs, empoisonneurs de l'agro-industrie.
Il y a des parlementaires dont le seul objectif, c'est que nous, paysans et paysannes, on irrigue plus, on stocke plus d'eau. Mais pourquoi faire et pour qui, en fait? C'est ça la question qu'on a envie de leur poser. Eux, parlementaires, ils doivent défendre l'intérêt général. Donc pour nous, la priorité, c'est pas de pomper plus dans les nappes phréatiques, mais c'est bien de savoir quel usage on fait de l'eau, qu'il y ait un juste partage entre les besoins des citoyens et citoyennes, des collectivités, et évidemment de la production agricole. On est scandalisé par la tournure de ces débats-là, enfin, qui révèle en fait ce schéma productiviste vers lequel on veut nous emmener, et qui révèle aussi une lutte des classes, pas avec nos collègues agriculteurs avec qui on travaille tous les jours, mais bien avec une oligarchie paysanne qui est aux manettes de la gouvernance, qui est en co-gestion permanente avec le gouvernement et qui oriente dramatiquement des politiques agricoles mortifères pour les paysans et les paysannes. C'est clair que pour eux, il faut qu'on soit moins de paysans et de paysannes dans les territoires pour être compétitifs. Et pour être compétitif avec qui, on se demande, parce que la compétitivité, on sait qu'on n'y arrivera jamais, puisqu'on n'a, et heureusement, pas les mêmes droits sociaux que nos voisins, heureusement, pas les mêmes topographies, pas la même agronomie. Enfin, il y a une diversité qui fait qu'on ne sera jamais compétitif. Et tant mieux, c'est pas ça l'objectif. L'objectif de l'agriculture, c'est bien de permettre une alimentation de qualité pour tous et pour toutes. En tout cas, c'est ça pourquoi on se bat, nous. Je laisse la parole à Nicolas sur les enjeux locaux de l'eau.
Moi, je suis paysan dans la Vienne, donc il faut savoir qu'ici, on est dans le bassin du Clain, qui a des forts, forts déficits en eau. Hein. Une gestion de l'eau qui est problématique depuis de très longues années. La seule vision qui a été apportée jusqu'ici, c'est de dire que c'est le stockage de l'eau qui va permettre de résoudre ces problèmes. Nous, Confédération Paysanne, on s'est mobilisé depuis il y a très longtemps contre ces ouvrages. Hein. Les premières manifestations contre les bassines, ça date de 2002, en Charente. Voilà, il s'est fait quelques bassines à une époque dans la Vienne. Et ensuite, on a eu ce fameux projet de 41 bassines. Un accaparement de l'eau par les plus grosses fermes sur le territoire au détriment des autres. Sur Poitiers, il y a des menaces sur l'eau potable régulièrement. Alors que dans la Vienne, l'étude HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, donne des chiffres. Il faut fortement réduire les autorisations de prélèvement, mieux les répartir et prioriser l'accès pour le maraîchage par exemple. Le système qu'on a dans tout le Poitou-Charente, c'est qu'en fait, c'est premier arrivé, première servi. Donc au printemps, là, dès qu'il se met à faire sec, tout le monde arrose à fond les ballons jusqu'à temps qu'il y ait des coupures. Donc il n'y a pas d'année où il n'y a pas une coupure. C'est bien la preuve que les milieux ne sont pas en capacité de fournir l'eau qu'on demande. On n'arrête pas de nous dire qu'on ne peut pas faire d'agriculture sans eau. Moi le premier, je fais de l'agriculture, mais sans irrigation. Comme la grande majorité des paysans, 7% des surfaces agricoles françaises sont irriguées. Donc la majorité des paysans font sans irrigation. Et il n'y a pas d'autre choix face au changement climatique. Vendre l'irrigation pour tout le monde, c'est un leurre. Alors que sur la construction des méga-bassines, tout est un peu en pause. Quand on vient, par exemple, le projet de 41 bassines est complètement annulé. On a gagné des choses, mais il reste encore du travail à faire sur cette question du partage de l'eau et de l'accès à l'eau pour le maximum de paysans.
Bonjour, moi c'est Benoît. Je vais parler pour les soulèvements de la terre et parce que je suis prévenu, mis en cause aujourd'hui comme organisateur d'une manifestation interdite à Sainte-Soline. J'étais déjà là avec mon camarade Julien et nos camarades de la CGT de Solidaires en janvier dernier pour l'organisation de la manifestation interdite de Sainte-Soline 1. Et maintenant, on revient pour Sainte-Soline 2. Et vous étiez mis en cause une fois sur deux, vous, la conf, pour l'organisation de manifs interdites de Sainte-Soline. C'est un mouvement qu'on a souvent cherché à désigner comme un mouvement un peu d'écolo ou d'habitants d'un territoire qui se battrait contre les intérêts des agriculteurs. Et évidemment, votre présence rappelle que, en fait, c'est un mouvement paysan. Et quand on se disait qu'est-ce qui caractérise un peu ce mouvement, c'est de défendre l'eau et la paysannerie. Parce qu'en fait, ce que font les bassines, bel et bien, c'est de détruire les paysans. Et peut-être, évidemment, éventuellement, d'en protéger une minorité de plus gros paysans. Mais en fait, la réalité, c'est que la majorité des paysans, les infrastructures de type bassines, les monocultures qui vont avec, ça détruit les paysans. Et aujourd'hui, on le voit encore avec la loi d'urgence agricole, le gouvernement ne cesse, la FNSEA ne cesse de jouer un jeu qui serait de mettre en opposition ce qui serait les intérêts des agriculteurs d'un côté et les intérêts d'écologistes ou d'habitants des villes et des campagnes de l'autre. Et vraiment, moi, si j'ai envie qu'on retienne quelque chose, c'est qu'on défend aussi l'intérêt des paysans et la possibilité d'une paysannerie. Aujourd'hui, on va parler du passé, de manifestations passées. Et aujourd'hui, on est face à un tribunal. Et pourquoi on nous met devant des tribunaux ? C'est pour faire taire les mouvements, pour y mettre fin, pour les étouffer. Et c'était bel et bien le but de la répression qui s'est organisée à Sainte-Soline. C'était de terrifier un mouvement qui, vous en souvenez, était complètement ascendant, quoi. C'est-à-dire que ça faisait un an et demi qu'on organisait avec Bastille Nommercier, avec la Confédération Paysanne, des manifestations qui allaient droit au chantier, qui disaient c'est plus possible que ces chantiers passent en force et se construisent vu leur impact destructeur sur nos territoires. Et c'était un mouvement qui, malgré effectivement des interdictions de manifester, malgré une présence des forces de l'ordre, il y avait de plus en plus de personnes qui venaient. Ce qui d'ailleurs nous renvoie à l'absurdité que nous on soit trois devant un tribunal comme si on était responsable du fait que des dizaines de milliers de personnes aient décidé de venir manifester pour un sujet qui leur semblait absolument vital. Et en fait ce que Darmanin souhaitait, ce que ce gouvernement souhaitait, c'était qu'on s'arrête de protéger les terres et l'eau et qu'on ne se soucie plus que de tribunaux, que d'amendes, que d'assignations à résidence et qu'on ait peur. J'ai envie de dire, avant qu'on retourne au tribunal par zélé du passé de Sainte-Soline, que ce mouvement a continué. Il a continué, je veux dire, du côté des soulèvements de la terre, pas plus tard que du 10 au 12 juillet, on va faire une grande manif. Le méga canal prend l'eau, c'est un projet qui est très problématique. 6000 hectares de terres agricoles qui sont concernés, c'est plusieurs fois la 69, plusieurs fois la ZAD qui vont être artificialisées, c'est des problèmes d'accès à l'eau pour des questions de méga infrastructures logistiques à 10 milliards. On va se donner rendez-vous pour manifester contre ce chantier du 10 au 12 juillet. Le 26 septembre, avec les soulèvements de la terre, avec nos camarades de la Confédération Paysanne et de Bastille Nommercy, on va être devant un des plus gros sites de production de pesticides du pays pour dire que c'est plus possible qu'on se fasse empoisonner par les pesticides. Et évidemment, le sujet des bassines, le type de production agricole qui vont avec les bassines et le type de production qui nécessite des pesticides, c'est des sujets qui sont tout à fait reliés. C'est important aujourd'hui qu'on ne se dise pas « Ah ça y est, ils sont devant un tribunal et ils se sont arrêtés ». Dans bien des territoires, on est en train d'obtenir gain de cause, quoi. Ils ont annoncé des projets de bassines, mais les bassines ne se font plus. Sainte-Soline est vide et tous les chantiers qu'ils avaient annoncés dans les Deux-Sèvres, les méga-bassines qui étaient projetées dans la Vienne, pour l'instant, elles sont à l'arrêt. Donc je dis pas qu'on a gagné, faut pas être trop triomphaliste parce que eux, ils arrêtent pas et ils font passer la loi d'urgence agricole pour essayer de passer en force. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je suis tout à fait certain, si à l'automne, grâce à la loi d'urgence agricole, ils tentaient de démarrer de nouveaux projets de bassines, il y a des dizaines de milliers de personnes qui seraient de nouveau là pour les arrêter. Parce qu'on demande toujours l'arrêt total des projets de méga-bassines et des projets d'infrastructures qui accaparent l'eau. Là-dessus, vraiment, on n'a pas changé, notre ligne n'a pas changé, répression ou pas. Une ou deux choses que moi j'ai prévu de dire au tribunal pour les soulèvements de la terre avec mes camarades. En droit, il y a quelque chose qui est souvent invoqué, c'est la question de l'état de nécessité. Au vu de l'urgence climatique, il y a 6 des seuils critiques irréversibles de mise en cause de l'habitabilité de la planète et notamment celle du cycle de l'eau douce qui ont été franchis dans les 10 dernières années. Et là, on a un parquet qui a expliqué qu'il n'y avait pas d'urgence à agir, qu'il n'y avait pas d'état de nécessité climatique, donc qu'on devait être condamné. Alors vous voyez qu'il y a des fous furieux, des milliardaires cinglés, des hommes politiques avides de profit, inféodés, un certain nombre de multinationales, qui soient climato-sceptiques, qui nous disent qu'il n'y a pas de nécessité à agir, on le constate douloureusement que trop bien tous les jours. Mais qu'on se retrouve dans un cadre censément sérieux d'un tribunal, avec une proc qui nous explique qu'il n'y a pas d'état de nécessité, honnêtement, j'ai été extrêmement choqué. Si on s'est retrouvé à agir hier à Sainte-Soline, et si on se retrouve à agir demain, devant n'importe quel prochain chantier de méga-bassines, c'est parce qu'on considère tous qu'il y a état de nécessité et qu'il y a urgence. Je voudrais quand même saluer le travail exemplaire, formidable, d'investigation par certains de vos confrères de Mediapart et Libération. Pour nous, c'était assez évident que tout ce qu'on subit là, en gros, on est les boucs émissaires d'un gouvernement qui cherche à s'innocenter en trouvant d'autres coupables et à dévier l'attention et à se couvrir de ses crimes. Les procureurs jusqu'aujourd'hui ont couvert Darmanin. D'ailleurs, Darmanin, il est passé de l'intérieur à la justice, donc maintenant c'est lui qui dirige les procureurs et qui s'assure qu'il ne va pas être poursuivi pour ses crimes. Darmanin, dès la première manif de Sainte-Soline, il avait dit méchant éco-terroriste. Ensuite, il a demandé aux forces de l'ordre de nous traiter de la manière dont ils nous avaient désignés. Et ensuite, ils ont été chercher des coupables, des organisateurs, pour se couvrir de leurs crimes. Et le travail qu'ont fait Mediapart et Libération, c'est un travail excellent parce qu'il pallie au manque de la justice. C'est que le procureur avait tous les outils en main pour faire le même travail que Mediapart et Libération et trouver les coupables. C'est pas seulement le flic qui a tiré sur Serge, vous voulez, c'est les donneurs d'ordre. C'est les hauts gradés de la gendarmerie, c'est Darmanin, et il les a couverts jusqu'ici. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va redire au tribunal. Je me demande tous les jours, est-ce qu'il y a aussi une justice pour les dirigeants de ce pays qui martyrisent leur population et qui les empêchent de se rebattre pour leurs droits vitaux? Et c'est ça qu'on va mettre en cause au tribunal aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Julien Leguet, coporte-parole de Bassine Montmercy.
S'il y en a un qui est bien aujourd'hui sous les fourches godines de la justice et qui a eu à subir de multiples passages, je crois que je suis à mon sixième de l'année, ben j'en suis. Il semblerait que je sois une des têtes à abattre du mouvement par rapport à mes fonctions de porte-parole que je remplis depuis 8 ans au sein du collectif Bassine Montmercy. Première information, c'est que non, je ne suis pas encore équipé du bracelet électronique. Cependant, ça a failli arriver puisque le JAP de Niort me convoquait ce matin à 11h15. Il a fallu faire valoir que c'était peut-être un petit peu dur physiquement de se dédoubler et donc je serai assigné à résidence durant le mois de juin. La stratégie mise en place par le gouvernement, utiliser l'outil judiciaire à l'encontre d'écologistes en fait et de gens qui se battent pour le bien commun, c'est évidemment l'autre face de la pièce de ce qu'on a vécu en termes de violence policière à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, on était au paroxysme du mouvement sur les retraites. À Sainte-Soline, il y avait vraiment quelque chose qui se jouait de très fort. C'était un événement national et toutes les énergies pour un autre monde, pour une autre société, étaient présentes ce jour-là. À travers la pluie de bombes qu'on a eu à subir ce jour-là, c'était véritablement un effet blast qui était recherché, de créer des dommages dans nos corps et dans nos esprits tels que ça nous vaccine de tout esprit de résistance. Darmanin, Vestieux, Dubé, toute la chaîne de commandement, tous ceux qui mettent en place cette stratégie, vous devez faire le constat d'échec. Votre pluie de bombes n'a pas généré ce que vous attendiez. Au contraire, on est encore là aujourd'hui pour en témoigner. La lutte contre les méga-bassines et pour un monde simplement vivant, elle est plus vive que jamais. Je ne nie absolument pas les souffrances que ça a générées chez tous d'entre nous en réalité. Tous ceux qui auront vécu Sainte-Soline de près ou de loin seront marqués à vie. Néanmoins, on est là. Néanmoins, on continue à résister. Et néanmoins, on ne tombe pas dans le panneau. Le fait de rebondir à chaque fois qu'on est convoqué devant la justice, de dire on est bien conscient que ce sont des procès politiques. Vous visez des individus, mais à travers les individus, c'est un mouvement que vous cherchez à pénaliser, à faire taire intégralement. Mais je trouve que la plus belle réponse, c'est de faire ce qu'on fait à chaque fois. De mettre toute cette énergie, de se retrouver, de vivre ensemble, de bouffer ensemble, de rigoler ensemble, de réfléchir ensemble, de profiter de ces moments-là pour que ce soit des moments structurants. Les outils de la répression sont en train de s'affiner en face. Il faut qu'on apprenne, là aussi, à grandir. Les prédateurs nous rendent plus intelligents. Et s'ils nous attaquent, bien, il faut qu'on réfléchisse collectivement. Ils pensent que le fait de nous assommer à grands coups d'amende et de dommager intérêt, ce serait de nature à me faire taire, nous faire taire et par extension, c'est ce qu'on appelle la procédure Bayon. C'est de multiplier les recours pour nous faire taire, nous empêcher d'agir. Les procureurs, là-dedans, jouent un rôle majeur et dégueulasse. Les procureurs sont aux ordres de Darmanin. Par exemple, quand des camarades se font attaquer à leur domicile, se font agresser comme mon neveu, ou comme Jean-Jacques, qu'on vient pendre au-dessus de la route à 6 mètres de haut, et qu'on porte plainte et que ça n'est jamais suivi d'effet, ou comme dans la situation de la plainte qui est posée par les proches de Serge, de Mika, d'Alix et d'Olivier, que ça débouche sur des non-lieux, ça témoigne de véritables dysfonctionnements de notre justice, dont les procureurs sont les rouages essentiels. Ce sont les procureurs qui ont le choix d'étudier et d'instruire une plainte. Ce sont les procureurs qui vont déterminer les moyens mis en œuvre d'investigation. Dans le cas de mon neveu, même pas une enquête de voisinage après qu'il ait été tabassé. Et si on reprend le cas dramatique de l'enquête menée par l'IGGN qui conclut à « nous n'avons pas identifié ceux qui ont des comportements criminels qui ont abouti à ces blessures aussi importantes chez nos camarades » et de se rendre compte qu'avec les mêmes images, la presse arrive à révéler et à trouver l'identité, évidemment que ça doit nous alerter. Et ce qui se passe aujourd'hui devant les tribunaux, ça vient profondément questionner des dysfonctionnements de cette justice et du contrôle des forces de police et de gendarmerie par elles-mêmes. Évidemment que c'est dysfonctionnant. Évidemment qu'un Condé ne dénoncera jamais un Condé, quand bien même aurait-il tué l'un d'entre nous. On est à l'aune aujourd'hui d'une nouvelle offensive massue. La LUA, elle a une vocation, c'est de rendre légales des pratiques illégales mises en place par l'État depuis des années. C'est d'acter le fait que, par exemple, des préfets n'appliquent pas des décisions de justice par rapport, par exemple, aux autorisations uniques de prélèvement qui vont définir les volumes distribués à l'agriculture et en fait à l'ensemble des usages. Ça vient par exemple acter le fait que dans le cas de réunions publiques qui devraient se tenir en même temps qu'il y ait des projets de bassines, ben, il n'y ait plus de réunions publiques. Et ces mêmes-là pensent que c'est en réduisant l'espace démocratique qu'ils vont faire la paix de l'eau, mais ils se fourrent le doigt bien profond dans l'œil. Ce qu'on réclame depuis le début,
sur ces questions d'eau, c'est tout le contraire. C'est plus de démocratie et c'est plus de transparence. Et à l'inverse des propositions dégueulasses et nulles du député du coin, que l'agriculture soit bien représentée dans ces instances de l'eau, mais à sa juste hauteur, et que ce ne soit pas parce qu'on consomme 60% de l'eau qu'on ait 60% des bois. En France, le principe qui devrait au contraire être en place, c'est le principe pollueur-payeur. Et c'est tout l'inverse qu'on vit, puisque le secteur le plus polluant et qui remet en cause les captages d'eau potable, la pérennité des milieux aquatiques, la simple vie dans les milieux aquatiques, c'est justement cette agro-industrie mortifère où on est, vous le savez, sur des territoires qui en France sont les plus gros consommateurs de pesticides. Et les faits, vous allez les retrouver dans les robinets, vous allez les retrouver à La Rochelle avec des cancers pédiatriques, vous allez les retrouver avec une biodiversité du clin quasiment réduite à néant, tellement tous ces produits, pesticides, le terme est très mal choisi, ce que ces produits tuent, ça n'est pas la peste, c'est la vie, c'est tout simplement la vie. Donc aujourd'hui, on est là pour faire face une nouvelle fois, pour leur dire, on ne se taira pas, on continuera d'agir pour le bien commun, on continuera d'agir pour les générations futures, on continuera à se mobiliser. Si le projet funeste de Darmanin, de Genevard, etc., était de dire, au mois de septembre, on lance une grande offensive, on essaye de lancer des chantiers un peu partout en France, des mini-bassines qui seraient soi-disant plus admissibles, enfin, soyons d'ores et déjà mobilisés et prêts à lancer l'alerte pour organiser de nouvelles mobilisations de terrain. J'en appelle à tout un chacun parce que ce qui fait que jusqu'à maintenant on a réussi à faire face, c'est que partout en France, les gens se mobilisent et les gens sont attentifs. Aujourd'hui, il existe 13 bassines non merci locaux qui veillent, mais en fait, il en faudrait un par département. En fait, c'est que bassines non merci, comme les soulèvements de la terre, ben en fait, c'est des mouvements très ouverts et très horizontaux avec une composition très large. Nous sommes les soulèvements de la terre, mais comme les soulèvements de la terre sont bassines non merci, et nous sommes amis de la conf, et la conf fait partie du mouvement. Et c'est bien ça qu'ils n'ont pas compris. On se retrouve à chaque fois devant les tribunaux, on a tous le même profil. On est tous des mâles blancs de plus de 40 ans. Et ils pensent qu'il y a des chefs dans notre mouvement, et en fait, ils reproduisent leur système de pensée. Bassines non merci, les soulèvements de la terre, la confédération paysanne, c'est pas ces manières de fonctionner, c'est pas ces archaïsmes-là, c'est pas la hiérarchie, c'est le peuple en marche qui se bat pour l'eau et pour le vivant. Nobassaran.
Journaliste à Libération, Laurent Nunez, il a dit que suite à nos révélations, les tirs tendus et les réactions des gendarmes étaient appropriés.
Les tirs tendus sont illégaux de base. Ils ont tenté, comme ils font dans la répression des révoltes des quartiers populaires, de plus en plus sur les mouvements politiques, de couvrir leurs hommes par tous les moyens possibles. Sauf qu'il se trouve qu'il y a des gens qui, pour une fois, se sont donné les moyens, ont eu peut-être les moyens, le soutien, la possibilité de dévoiler la vérité brutale et crue. Et ça a mis du temps. Je veux dire, nous, on l'a dit pendant longtemps. Et je trouve ça hallucinant qu'il faille un travail fait par des journalistes indépendants et d'investigation. Et heureusement qu'il en existe. On voit bien pourquoi l'extrême droite et toute une partie de ce gouvernement cherchent à les faire disparaître et la possibilité de ce type de journalisme. Ce que vous avez fait avec Mediapart, c'est de pallier au manquement grave de la justice et du parquet, sciemment et volontairement organisé par la personne qui était ministre de l'Intérieur à l'époque et qui est ministre de la Justice aujourd'hui et qui est couvert par son collègue actuel ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui du coup va dire que les tirs qu'auraient pu être mortels. Volonté de martyriser des gens qui étaient là pour défendre l'eau, que ces tirs étaient proportionnés, ce qui est vraiment une abomination.
Un élément qui m'a profondément choqué dans les propos de Nunez hier, c'est qu'il osait prétendre que des sanctions avaient déjà été prises à l'encontre de certains gendarmes qui étaient présents à Sainte-Soline. Je pense que c'est un mensonge éhonté et j'exige, et j'espère que les médias et des députés iront chercher qui sont ces gendarmes qui ont été sanctionnés. Il n'y en a pas à ce jour. Une exigence citoyenne, dissolution de l'IGGN, dissolution de l'IGPN, contrôle des forces de l'ordre par des juges indépendants et par des observateurs indépendants.
Il y a une lutte des classes qui se fait entre la masse des agriculteurs et des agricultrices et une petite oligarchie agricole qui draine les subventions publiques, qui accapare l'eau pour leurs propres intérêts, les intérêts de l'agro-industrie qu'ils représentent et qui vont tous nous faire crever, nous les paysans, les paysannes. Ça vous échappe pas qu'on est dans une bascule en ce moment. terrible en fait, où on va perdre l'agriculture transmissible en fait, de génération en génération, qui peut se transmettre dans la famille, mais ailleurs aussi. Demain, j'ai l'impression qu'on va être sur des firmes, et la loi d'urgence le permet, et la répression qu'on subit judiciaire, policière, elle permet ça en fait, c'est de ça qu'on parle.
Sur l'oppression du mouvement écolo en France, parmi les témoins qui sont très attendus, il y a Michel Forst, commissaire à l'ONU justement sur ces questions de protection des défenseuses de l'environnement et qui avait, suite à Sainte-Soline, vraiment alerté les instances internationales sur une dérive très inquiétante des doctrines du maintien de l'ordre à la française et en particulier sur une oppression systémique des militants écolos. Sainte-Soline en est peut-être une des facettes les plus visibles, mais elles ne doivent pas faire oublier que l'État français a déjà tué des militants écolos. Il ne faut pas oublier Rémi Fraisse, il ne faut pas oublier le Rainbow Warrior, Vidal Michalon. Cette répression qu'on vit par les armes de la police, par les outils répressifs de la justice, c'est les mêmes méthodes qui sont encore en cours pour mater les mouvements sociaux dans les quartiers populaires, dans les dom-toms, je crois qu'on ne dit plus dom-toms. Imaginez si on avait eu accès aux caméras piétons des CRS en kanaki. Imaginez les horreurs proférer l'immondice du comportement de ces hommes-là. Pour moi, aujourd'hui, c'est un procès pour l'histoire, c'est l'histoire au temps long. Et j'ai envie de dire, j'en ai rien à fiche de la décision que prendront ces juges. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui restera dans l'histoire, qu'est-ce qui restera dans nos cultures collectives et communes de cette date du 25 mars 2023, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et de quoi c'est révélateur. Et évidemment qu'on combattra jusqu'à ce que les méga-bassines ne se fassent plus partie de la gamme des dites solutions face au réchauffement climatique. Mais le combat, il ira aussi jusqu'au jour où on obtiendra que les Darmanin, que les préfets, que la chaîne de commandement, que tous ceux qui ont construit ces stratégies de fortin et qui ont envoyé la charge avec les quads aient à répondre devant la justice. Parce que les vrais organisateurs de la manif de Sainte-Soline et qui ont donné cette situation tout à fait incontrôlable, c'est évidemment la chaîne de commandement et c'est évidemment les ministres qui ont rendu ça possible.
Il y a déjà une plainte qui a été portée contre Darmanin. On l'avait fait à l'occasion des 1 an de Sainte-Soline. Et donc nous sommes 1312 à avoir porté plainte contre Darmanin pour avoir menti sous serment devant une commission d'enquête parlementaire. Et tout à l'heure, on parlait de dysfonctionnement de notre État et certainement qu'il faut imaginer une 6e République. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un ministre, il suffit qu'il soit à nouveau ministre pour ne pas être jugé par la justice du commun des mortels. Si aujourd'hui Darmanin devait comparaître, ce serait devant la CJR, la Cour de justice de la République, qui est composée majoritairement de députés de sa majorité et de son alliance. Donc évidemment que c'est dysfonctionnant. On n'a qu'une hâte, c'est que Darmanin ne soit plus ministre pour que de nouveaux recours puissent être lancés à son égard.
Qu'est-ce que vous risquez du coup pénalement aujourd'hui, vu que c'est le procès en appel ?
En première instance, j'ai été condamné pour Sainte-Soline à 3 mois de prison avec sursis, à une interdiction de territoire de 3 ans, territoire du département des Deux-Sèvres. C'est pas rien, c'est des décisions de bannissement politique qui font que l'endroit qu'on cherche à protéger, l'endroit où on a créer des liens pendant des mois, des années pour un mouvement, on en est interdit. C'est vraiment des décisions qui visent juste à étouffer ces mouvements-là et c'est des décisions qui ont été appliquées de manière systématique. Mon avocat a vraiment, à juste titre, plaidé pour que cette interdiction de territoire pour l'organisation de Sainte-Soline soit annulée. J'ai obtenu gain de cause, quoi. C'est-à-dire qu'en première instance, mes 3 mois de prison avec sursis ont été transformés en amende. Ce qui n'est pas satisfaisant, je veux dire, moi ce que j'attends c'est la relaxe, mais disons que ma peine a été diminuée et mon interdiction de territoire s'est vue lever.
Parce qu'on a été jugé à l'origine avec un verdict rendu le 9 janvier 2024, où nous étions 9 à comparaître sur plus de 12 chefs d'inculpation sur des dates très différentes. Donc même pour nous c'était extrêmement compliqué de nous y retrouver et pour le coup le tribunal de Poitiers a décidé de repasser jugement par jugement. C'est ce qui fait que moi d'un jugement je me retrouve avec 3 audiences différentes. Donc en première instance sur Sainte-Soline 1, Benoît avait pris 3 mois, on a un autre camarade qui avait pris 6 mois et j'avais pris 6 mois pour Sainte-Soline 1 et 2 camarades syndiqués, Hervé Auguin et David Baudin, avaient pris des peines d'amende. Sur Sainte-Soline 2, Benoît avait pris 3 mois, j'avais pris 6 mois, notre autre camarade qui n'a pas pu faire appel de la décision a pris 6 mois. Nicolas et Benoît de la Conf avaient pris pour Nicolas interdiction de territoire des Deux-Sèvres. On a tous l'interdiction de port d'armes. C'est peut-être la peine dont on se fiche le plus. Moi, je suis objecteur de conscience. Mais quand ils donnent cette peine-là, en fait, ils construisent un narratif qui laisserait à croire que ça nous intéresserait. Donc, faut pas être dupe. Je crois que Benoît et Nico avaient également pris des peines d'amende. Ce qui fait que, du coup, le pronostic est très dur à faire aujourd'hui. Moi, je me suis retrouvé avec un procès pot pourri dans lequel il y avait tout un tas de faits de dégradation, de vol de pelle à grain. J'aurais menacé le fait de rendre public une information qui aurait dû l'être, à savoir le nom des irrigants qui bénéficient de Sainte-Soline. Et là, dans ce procès pot pourri, j'ai été très surpris parce qu'en première instance, j'écopais de 20 000 euros de dommages et intérêts et de sanctions pénales financières, alors que ça n'était pas requis par la procureure. C'est là que j'ai eu la très mauvaise surprise d'écoper d'une peine d'emprisonnement ferme avec assignation et aménagement, avec port d'un bracelet électronique à mon domicile. Donc moi, aujourd'hui, je pense qu'on va être jugé par la même juge, Madame Locke, celle qui préside très souvent la cour d'appel de Poitiers. Sur Sainte-Soline 1, il y a eu des peines plutôt plus clémentes. Sur mon affaire, là, complètement inattendue, et je le redis, c'était une décision d'une rare violence. Je la trouve scandaleuse, et vu le nombre de soutiens que j'ai reçus d'un peu partout en France, je crois que je ne suis pas le seul à trouver que cette décision, elle est parfaitement scandaleuse. Donc, dans quelle mesure Madame Locke et ses deux assesseurs sont étanches ou perméables à la vérité, ce que Libé et Mediapart ont posé? Si elle veut dire la justice pleine, dans quelle mesure elle prend d'abord en considération qui a généré des heurts aussi violents, de telles blessures sur ce champ de bataille qui est devenu Sainte-Soline? Voilà pour la synthèse. Et si vous y perdez, c'est normal. D'ailleurs, il semblerait que même la justice s'y perde un petit peu, parce que j'ai failli me retrouver convoqué devant le juge d'application des peines ce matin à 11h15 à Niort, qui était à plus d'une heure de route. Il a fallu que mon avocat se retourne vers le juge d'application des peines pour dire là, matériellement, on ne va pas pouvoir se dédoubler pour qu'elle accepte un renvoi au mois de juin.
La FNSEA, la dernière fois qu'il y a eu un rassemblement ici, elle a dit que c'était uniquement une lutte de petits bobos du centre-ville.
La Confédération paysanne fait 20% aux élections professionnelles. On n'est pas des petits bobos de centre-ville. Moi, je suis la sixième génération paysan. Mes parents faisaient de l'agro-indus et on s'est révélé aussi en se disant, mais à un moment donné, est-ce qu'on va tous crever pour l'intérêt de quelques-uns, quoi? Le cynisme de ces gens-là, quand ils portent la voix de ceux qui représentent les agriculteurs dans le couloir des ministères, ils n'en ont rien à foutre des adhérents qui les représentent. Ils n'en ont rien à foutre. Dernièrement, il y avait des réunions sur la crise des engrais. Je peux vous dire que la seule chose qui les tracasse, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer demain à vendre des engrais aux paysans et paysannes? De savoir s'ils vont crever en achetant des engrais, ils n'en ont rien à foutre. Quand je parlais des classes, elles se matérialisent là. C'est comme ça que les parlementaires en parlent, en tout cas quand ils parlent de la FNSEA. On a parlé aux agriculteurs. Ils n'ont pas parlé aux agriculteurs. Ils ont parlé, encore une fois, à une grande bourgeoisie capitaliste qui n'œuvre que pour eux, pas pour les paysans et les paysannes.
Ça fait 30 ans que je suis paysan dans la Vienne, donc j'ai été élu à la Chambre d'agriculture pendant 12 ans, donc le discours de la FNSEA, on le connaît. Ce que je peux leur répondre, la FNSEA, c'est que eux, je les vois défiler en disant non à HMUC. En fait, ils disent non à la science, ces gens-là, alors qu'on a une étude là qui est en train de nous dire qu'il y a trop de volets motorisés dans la Vienne, il faut baisser. Ils ne veulent pas l'entendre parler. Mais ensuite, M. Duplon qui vient leur servir la soupe en disant on va soumettre ces études-là à des questions économiques. En fait, leur modèle des mégabassines, économiquement, ça ne fonctionne pas. Ça les envoie dans le mur. Nous, on dit qu'il faut installer des paysans nombreux. Et justement, il y a un certain nombre de projets diversifiants où on aura besoin d'eau. Il faudra arrêter les méthaniseurs. Ici, dans le département de la Vienne, il y a 18 millions de mètres cubes autorisés sur le bassin du Clain. Et à quelques kilomètres ici, vous avez deux fermes qui monopolisent 1 million de mètres cubes chacune. Ces deux fermes-là ont des méthaniseurs. Voilà, on utilise de l'eau pour faire de l'énergie, pour faire rouler des bus dans Poitiers en disant qu'on roule au gaz vert. C'est insupportable d'entendre leur discours.
Et voilà les amis, fin du premier épisode de ce reportage sur ce procès de Poitiers du 27 mai 2026. Suite de ce marathon judiciaire au prochain épisode sur votre radio encore libre préférée et sur notre site polémiquecestlavoixoff.com. No basaran et no pasaran, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.